voici entre Loire et Loin, c'est l'heure du magazine du Gâtinais sur C2L. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter comme chaque samedi. Aujourd'hui, c'est du côté de la forêt d'Orléans que je vous propose de nous balader, du côté de Nibel, plus précisément, où vous verrez, il se passe beaucoup de choses. Et au passage, nous ferons une petite halte du côté de Mignerette, où l'inspecteur Menotte est de retour pour une nouvelle enquête au château de la Planchette. Vous n'avez rien compris à ce sommaire, c'est pas grave. Faites-nous confiance, restez avec nous, entre Loire et Loin. À tout de suite sur C2L.
C2L-radio.fr.
Nous sommes entre Loire et Loin sur C2L, c'est l'heure du magazine du Gâtinais. Et comme je vous l'annonçais tout à l'heure, nous allons faire un tour au château de la Planchette à Mignerette, où chaque mercredi, vendredi, samedi Et dimanche, l'inspecteur Menotte mène l'enquête au château de la Planchette. C'est une mise en scène proposée par l'association LAC. Edith Bourgoin, la présidente, et Pascal Masson, le metteur en scène, nous en parlent au micro de Patrice Avzard.
Eugène Menotte est de retour au château de la Planchette à Mignerette pour une quatrième enquête, Mauvaise Graine. Pour nous parler de cette enquête, eh bien, nous avons dans nos studios Edith Bourguin, la présidente de l'association LAC, qui propose donc ce rendez-vous. Bonjour.
Bonjour.
Et Pascal Masson, le metteur en scène.
Bonjour.
Avant de parler quand même de cette enquête, c'est donc l'association LAC qui propose ce rendez-vous. On fait un petit historique quand même de cette association qui n'est pas toute jeune.
Ah oui, elle commence à avoir un petit peu de bouteille. Donc LAC, c'est une association qui a été créée en 1989. Donc avec
un premier spectacle.
Projet de
Son et Lumière.
Son et Lumière, voilà.
C'était à Chalette.
Oui,
à Chalette, au Théâtre
Chalette.
De Verdure, Anne Quatre-Sceaux. Une des quatre femmes, mais était quoi elle déjà, je sais plus.
Sur la
Soldat.
Révolution.
C'est, oui, c'était,
oui, c'était
voilà.
La Révolution.
La Révolution,
oui,
voilà. Voilà, c'était le grand spectacle.
Le grand spectacle de l'époque.
Donc elle a évolué en gardant toujours sa dynamique de spectacle, en fait, puisque nous faisons toujours à la demande les animations et les spectacles de rue, les enquêtes au château et pays du Père Noël, tout ça c'est dans nos
gènes. Les gènes, voilà.
Dans les gènes associatifs de LAC. Et puis il y a quelques activités supplémentaires qui sont venues se greffer au fil du temps, au fil des bonnes volontés qui voulaient bien s'en occuper aussi. Donc la danse médiévale au départ, voilà. Qui a évolué vers le traditionnel maintenant, et puis les randos qui ont commencé un petit tout petit dans l'ombre, et puis qui maintenant sont quand même une partie intégrante de l'association. Et puis il y a bien d'autres.
Les loisirs aussi. Vous proposez les loisirs pour les.
Il y a tous les loisirs, les visites, les choses qu'on rajoute.
On en est à combien de spectacles avec l'association?
Je n'ai pas compté, mais ça représente quand même pas
ça
mal.
Ça doit commencer en 1989 avec à raison de deux par an, peut-être.
Ou deux par an, donc ça représente
ça
quand même.
Ça commence à faire un petit
beaucoup.
Peu de.
Entre des animations de rue, des spectacles du théâtre, des sons-lumière, des enquêtes, plein de choses différentes, donc ça fait beaucoup.
Il y a des années très chargées, oui.
Avec malheureusement, on va dire comme pour tout le monde, une pause en raison de la situation
sanitaire. Pause obligatoire, oui, malheureusement.
On a réfléchi pendant ce temps-là à d'autres choses.
Eh bien, on a écrit deux enquêtes pendant ce temps-là. Faut pas perdre de temps.
Donc voilà. Menotte, toujours là.
Toujours une jeune menotte et puis son acolyte.
Mais en fait, les activités se sont pas tellement arrêtées, non. Puisqu'on a continué quand même à faire la danse, à réfléchir sur la vie de l'association, parce que ça a été aussi le moment d'une pause qui dit bon ben qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi, comment on continue,
parce
que c'était c'est difficile de repartir après la période
dur,
Covid.
C'était
dur pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Pas perdu trop de bénévoles, justement, pendant.
Si,
malheureusement.
On a quand même beaucoup perdu.
C'est-à-dire deux ans, repartir, les gens, ça va.
Ils ont pris leur train-train, samedi, dimanche à la maison, tranquille.
Oui, peut-être. Plus à la maison, et puis, on leur propose tellement de choses, d'autres choses aussi. Ils n'ont pas besoin de sortir, donc c'est très bien.
Donc on peut faire peut-être, comme pour beaucoup d'associations, un appel au bénévolat.
Bien sûr, oui. Mais ça, on peut faire un énorme appel au bénévolat, parce que c'est vrai que... Alors, dans notre association, il y a deux choses. Il y a les adhérents et il y a les bénévoles. Et les bénévoles, ce sont les personnes qui nous aident quand on fait l'enquête au château, quand ils sont derrière pour faire les petites mains, au pays du Père Noël, parce que là, il nous faut énormément de monde. Et ça, il y a cette partie bénévole qui n'est pas... adhérente et qui va pas gérer l'association, mais qui va donner un sacré coup de main quand même quand on fait des spectacles et des animations.
Bah c'est l'éternel problème des spectacles. On voit les personnes qui jouent, mais tout derrière il y a beaucoup de monde. Il faut qu'ils soient là.
Toutes ces personnes qui vont nous amener leurs connaissances, leur expérience. On a besoin de bricoleurs, et là on est en recherche de bons bricoleurs, et puis des gens costauds. On a aussi besoin de déménageurs des fois.
Oui, des meubles à déménager dans le château, c'est lourd.
Voilà, donc des personnes qui ont autre chose à apporter, qui vont faire évoluer l'association.
Voilà, et jeunes et moins jeunes.
Tout le monde est bienvenu. Des jeunes retraités, c'est plus facile pour les jeunes retraités, bien sûr, mais on a besoin des jeunes.
Et la jeunesse, justement, vous réussissez à les capter pour qu'ils viennent rejoindre ?
Pas sur nos activités, là,
en ce
moment.
Non, on a du mal. On a du mal à les faire venir. Ouais.
C'est pas leur moyen d'expression, peut-être. C'est peut-être la difficulté.
Je sais pas si...
C'est dans l'époque, on va dire.
C'est l'époque,
on est derrière son écran, son clavier, puis voilà, on se dit que ça va bien, mais quand même, comme on le disait tout à l'heure hors antenne, rien ne vaut quand même le contact physique avec son public, il faut peut-être leur dire que, il y a toute une préparation, donc on ne lâche pas quelqu'un comme ça dans la nature du jour au lendemain, voilà. Faut pas hésiter, si ceux qui hésitent, un petit peu, justement, qui ont peur. Mais non, faut y aller.
Alors, il y a aussi le fait qu'il faut venir à plusieurs. Il faut aussi qu'il y ait une dynamique de groupe déjà un peu construite. Mm-hmm. C'est vrai que quand on a des amis qui viennent ensemble, c'est beaucoup plus simple.
Ah oui. Parce qu'on a eu plusieurs fois, on a eu des vagues comme ça. Mm-hmm. En général, ils ne viennent pas seuls, ils viennent avec deux ou trois personnes. Et là, ça part. Donc c'est le dynamisme qui nous manque.
On va essayer de le relancer alors.
Il faut que se relancer. On se relance nous-mêmes, mais bon.
Voilà.
La machine.
Voilà. Elle est pas grippée,
Grippée. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où il manque de souffle, quoi.
Donc voilà, un appel lancé aux bénévolats, que ce soit donc pour le staff, tous ceux qui sont derrière
et puis les ceux comédiens. Qui veulent jouer.
Les comédiens aussi. Et puis les comédiens, parce que
des danseurs,
il y aurait beaucoup plus de comédiens.
Des marcheurs aussi.
Voilà.
Parce que quand on commence à faire des randos en marcheurs, ils se transforment en comédiens au bout d'un certain temps.
C'est-à-dire que mais l'équipe actuelle fait un peu tout.
On fait tout.
Quand on veut faire de la danse, on va chercher les comédiens.
Et vice versa.
C'est combien de membres à l'heure actuelle, justement, l'association ?
Je crois qu'on est autour d'une cinquantaine actuellement.
Oui, cinquantaine avec les bénévoles.
Avec les bénévoles, il nous faudrait un petit peu plus.
Oui. Donc voilà, pour ceux qui veulent vous rejoindre.
Adhérents et bénévoles, ça fait une
cinquantaine. Ils vous contactent où ?
Ils nous contactent sur le portable de la présidente.
Voilà.
Et qui est
06 45 99 14 60.
Voilà, on le rappellera ce numéro en toute fin d'interview, car on va revenir à l'autre sujet, celui qui arrive ce 14 avril, c'est Eugène Menotte, donc, qui revient.
Il revient avec son coéquipier Augustin Lumière.
Et c'est Mauvaise Graine.
Mauvaise Graine, oui.
C'est cette saison, les Mauvaises Graines.
C'est pas de saison, mais on n'est pas loin.
Allez, sans tout nous dévoiler quand même, c'est quoi cette Mauvaise Graine ?
Eh bien, ça se passe dans les années 30, 1934 exactement.
Les Brigades du Tigre, c'était à peu près
à cette époque-là. Oui, c'est l'époque des Brigades du Tigre.
Ouais.
Avec Agathe, toujours la fidèle... qui part un peu sur les côtés de temps en temps, on sait pas pourquoi.
Voilà.
Et donc là, l'avantage, c'est qu'on fait participer le public sous forme d'une école policière. Donc ils viennent faire leurs premières armes, justement, au château de la Planchette, avec les Mauvaises Graines.
Vous allez les chercher carrément, le public ?
On joue avec le public aussi, c'est le but. Hein. Le but, c'est de se promener, donc on se promène dans les dépendances du château, dans le jardin, dans les salles du château. Alors, la découverte on suit l'enquête, on suit l'inspecteur et le commissaire. Et on peut poser même des questions. C'est ça l'avantage.
C'est un meurtre qu'il y a eu dans ce château? Et ou est-ce qu'on le garde secret? Non.
Quand il y a une enquête, il y a un meurtre.
Non,
voilà.
Ça peut être un vol.
Ça peut être aussi un vol, mais ça serait moins intéressant.
Oui. Bon, on aime bien qu'il y ait un meurtre quand même.
Bah oui, mais on ne voit pas le cadavre, il n'y a pas de sang.
Il n'y a pas de
voilà.
sang.
Quel dommage.
Oh, bah non, 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 on fait ça bien. C'est un meurtre bien lisse.
Voilà, c'est propre et tout.
Voilà, il est propre.
Voilà. Donc, on part avec le public, on bouge avec le public.
On bouge avec le public. Le public suit les enquêteurs. Et par moment, le commissaire leur pose des questions et à eux de répondre.
D'accord.
Donc des fois, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ce qui fait le charme de l'enquête.
Voilà. Oui, ça veut dire que les comédiens s'adaptent, en fait, à l'école de police qu'ils ont en face. C'est-à-dire qu'à un moment, pour avoir participé,
ben oui,
c'est vrai, pour avoir été public, de fait, si on répond à côté, ou si on répond pas, ou si on répond... En face, ils sont obligés de rebondir. Mmh. Et c'est tout un gros travail pour eux.
D'improvisation.
Voilà,
c'est ce qui fait le charme de cette enquête.
Voilà, c'est ce que j'étais prêt à dire. Mmh. Ça apporte un plus, une improvisation comme ça, avec peut-être des spectateurs qui peuvent surprendre les comédiens, un petit peu les dérouter.
Oui. Bah, des fois, on a eu des enfants de 10-12 ans qui nous ont sorti des trucs... L'imagination, ça y va. Hein. Mais c'est ça qui est bien.
Oui, il y a certaines fois, je pense que dans le public, il y a des acteurs qui s'ignorent.
D'accord. Oui, non, des fois, c'est surprenant, mais c'est très agréable. Mm. Parce que là, alors, le commissaire et l'inspecteur jouent avec lui. Alors là, t'es tranquille. Hein.
Ils aiment ça en plus.
Oh, ils adorent ça.
Voilà. C'est un petit peu le charme. Je pense que justement, à pouvoir jouer comme ça avec le public, c'est le charme d'une représentation qui bouge.
Ah ben, bouge.
Contrairement à du statique où même si les comédiens peuvent jouer avec le public, ça donne pas pareil. Quoi.
Ah ben non, non. Puis là, il y a Agathe qui les manie. Hein. Je veux dire que vous avez intérêt à suivre.
Elle y va avec le bâton, non?
Non, peut-être pas, mais.
Non, mais c'est vrai qu'elle tient bien son groupe.
Ah, elle aime bien son groupe, elle le tient bien. Hein.
Donc voilà, ça c'est Mauvaise Graine, c'est à compter de ce vendredi 14 avril, et c'est jusqu'à la fin du mois.
Voilà, jusqu'au dernier dimanche.
Et à quel moment ont lieu les représentations?
Alors, les représentations, c'est le vendredi, le samedi.
Et le mercredi.
Et le mercredi à 20h, et le dimanche à 14h30 et 17h.
Donc un conseil réservé, parce qu'on prend que 25 personnes à chaque fois. Donc c'est très important de réserver pour être sûr d'avoir une place.
Au même numéro?
Non, le numéro de réservation, c'est...
Le 0238, c'est voilà, ça? 0238 98 61 73. Non, c'est pas celui-là. Non, c'en est un autre.
Oui. Oui.
D'accord. Allez-y. Rattrapez-moi plutôt.
Alors c'est le 02 38 55 87 36.
Voilà, donc ça c'est pour réserver pour la Mauvaise Graine, donc à compter de ce vendredi 14 avril. Sinon, allez, les autres projets, donc on a cette enquête là, et la suite pour l'association pour 2023.
Alors il y aura des danses, donc au mois de juillet.
Oui.
Hein, pour
le groupe de danse a quelques spectacles. Mm-hmm. Peut-être un peu moins que l'année dernière, c'est très variable.
C'est variable, c'est en fonction.
Voilà. Et puis après, à partir du mois de novembre, nous replongeons dans l'organisation du Pays du Père Noël, qui aura lieu les trois premiers week-ends de décembre.
À l'Arboretum des Bars.
À l'Arboretum des Bars, voilà. On ne sera plus au château comme à une époque.
Non, nous ne pouvons plus.
C'est plus possible l'hiver.
Voilà.
Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est pas grave.
Hein. Le décor est peut-être plus charmant, non?
Plus charmant, je dirais pas ça. C'est plus naturel, c'est dans la forêt, c'est un autre style.
Il y a une autre ambiance.
Une autre ambiance. Oui, c'est plus grand.
C'est
beaucoup plus grand.
Oui.
On est moins les uns sur les autres, ce qui est pas mal non plus. Et puis, c'est le charme de la forêt, le charme. Oui. Encore l'autre jour, il y a eu de la neige la dernière fois, c'était très agréable. Très, très agréable.
Eh bien, voilà. Donc, avec l'association là qu'on rappelle, besoin de bénévoles.
besoin de bénévoles.
On vous contacte. Et puis, Mauvaise Graine, donc, à compter de ce vendredi.
Voilà, tout à fait. On attend le public très nombreux et participatif.
Voilà, le message est lancé. Eh bien, merci à vous d'être venus.
Eh bien, merci.
À très vite.
À très vite.
Pour une nouvelle enquête en 2024, notamment.
Il y en aura une.
Oui. Il y en aura une.
Eh bien, au revoir.
C'est prévu, ça. C'est prévu. C'est prévu. Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin sur ces deux ailes. Merci de nous écouter. Et une fois n'est pas coutume, nous allons nous éloigner un peu du Montargois et nous rapprocher de la forêt d'Orléans pour découvrir la commune de Nibelles, à la lisière de la forêt d'Orléans. Une commune qui abrite bien des trésors et notamment son musée de la poterie et de la forêt que nous sommes allés visiter.
Alors, Bruno Lagarde, vous me disiez que ce musée, il avait 40 ans et qu'il a été rénové il y a peu.
Exactement. Il a été rénové en 2019-2020 et on l'a refait entièrement. C'est-à-dire que la mairie a financé les travaux concernant le bâtiment et Histoire et Patrimoine s'est occupé de l'aménagement intérieur.
Voilà, alors Histoire et Patrimoine, c'est l'association éponyme qui s'occupe d'Histoire et de Patrimoine ici, qui a édité de nombreuses revues et qui s'est occupée de toute cette muséographie qui est vraiment qualité professionnelle, hein, je vous le dis.
Oui, bah c'est gentil. Oui, effectivement, c'est avec un groupe de bénévoles, hein, une dizaine d'adhérents. On s'est occupé de tout faire, hein, aussi bien... Comme vous le voyez, l'aménagement intérieur, l'achat des matériaux, et puis surtout l'affichage, hein, qui a été très important.
Alors voilà, la poterie ici, ça s'est terminé dans les années 14, ou alors après la Première Guerre mondiale.
Exactement. On sait que l'activité potière à Nibelle a commencé au XIIe siècle et s'est arrêtée en 1914 à peu près. On a recensé... Pour vous donner une idée de l'importance de cette activité potière, on a recensé 126 potiers et tuiliers entre le 17e et 1914.
Et alors, ce qu'on trouve ici comme ustensiles en poterie, ce sont que des originaux ou est-ce qu'il y a des répliques ?
Ah non, ici, dans le musée, vous n'avez que des originaux. Alors... essentiellement des poteries du 19e, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à retrouver, mais on a également une collection qui date du 16e siècle, notamment des petits sifflets qu'on appelle ici des sublets, et qui ont été retrouvés dans les années 90, sous le carrelage d'une maison qui était en rénovation à Nibelles.
Alors ici, on peut voir donc comment on travaille la terre, de l'argile à la cuisson, avec entre autres ce four qui est magnifique.
Oui, alors on a voulu une approche pédagogique en fait, parce qu'on accueille notamment des scolaires, et on présente toutes les phases opératoires de la fabrication d'une céramique en partant de l'argile qu'on va prélever en forêt d'Orléans, et on suit toutes les étapes jusqu'au produit fini.
Bruno, on va à côté, oui. Chez les forestiers.
Eh bien, volontiers.
Donc, alors, là, évidemment, ce qui est impressionnant, entre autres, c'est ce petit, cette réplique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Racontez-moi ce que c'est.
Alors, ça, c'est une loge. Alors, en fait, autrefois, lorsque les bûcherons arrivaient sur une coupe de bois, la première chose qu'ils faisaient, c'était de fabriquer une loge pour pouvoir s'abriter lorsqu'il pleuvait, par exemple. Donc, ils construisaient la loge et ils pouvaient se mettre en dessous pour déjeuner, par exemple, pour manger du hareng. C'était la tradition locale.
Alors, ça faisait 4 mètres de haut, hein, vous me disiez.
Ah, même plus, ça faisait 7 mètres de haut, 7-8 mètres de haut, puisqu'on pouvait être pratiquement une dizaine à l'intérieur.
Ça durait combien de temps, une loge ? Elle pouvait avoir plusieurs années ?
Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque les bûcherons partaient, il y a les charbonniers qui arrivaient. Et alors, les charbonniers, eux, non seulement ils déjeunaient sous la loge, mais ils dormaient sous la loge. Parce que lorsqu'ils réalisaient une meule de charbon, ils étaient obligés de la surveiller en permanence pendant 3-4 jours.
Alors,
donc,
là-bas...
ils dormaient en dessous.
Là-bas, il y a une meule de charbon. C'est très, très beau. Vous avez de jolies petites maquettes. Hein.
Oui, ben on a réalisé une reproduction de cette meule. Si vous voulez, on peut aller la voir. Hein, donc
Bruno, voilà. Ici, on comprend mieux comment on faisait du charbon à l'époque avec ce qu'on appelait la charbonnette.
Exactement. La charbonnette, ce sont des petits morceaux de bois qui faisaient 66 cm de long et que les bûcherons laissaient sur place et que les charbonniers réutilisaient pour faire cette fameuse meule.
Dites-moi Bruno, on parle de métiers pauvres, de gens pauvres, des métiers durs ?
C'était des petits métiers, oui, mais qui permettaient quand même aux gens du village de vivre. Alors souvent, ils avaient plusieurs activités. C'est-à-dire qu'ils étaient en forêt l'hiver pour couper le bois, mais pendant les autres saisons, souvent, ils étaient agriculteurs.
Bon. Merci Bruno. Est-ce que vous êtes là quand on vient faire une visite ici ? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un pour vous aider à comprendre ?
Ah oui, il y a toujours un adhérent de l'association qui est présent et qui fait la visite, en fait, qui accompagne les visiteurs s'ils le souhaitent, ou sinon les personnes peuvent également faire des visites libres.
Et puis moi, là, tout de suite, avant de partir, je vais aller acheter des petits sifflets. Parce que, comment vous appelez ça déjà?
Des sublets.
Ah oui, je vais aller acheter un petit sublet parce qu'ils sont mignons. On peut revenir avec des... c'est plus qu'un souvenir, c'est de très beaux objets. Hein?
Merci.
Merci beaucoup, monsieur Merci Lagarde.
Écoute-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Elle ne t'a jamais aimé, camarade. Elle profite de toi, tu es content. Même ses paroles, elles sont froides. Tu dois les sentir pourtant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant. Combien t'as pris pour un imbécile? Mais toi tu trouves tout ça c'est bon. Ne me dis pas non, c'est inutile, car pour moi tu es un con. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Sois un peu fier, laisse-la tranquille. Elle se moque de toi, ça se voit, non. Je te comprends, ce n'est pas facile, car où tu marches, tu cries son nom. Ce n'est pas pour tes beaux yeux au fait, si elle t'a pris le bras devant les gens. Toi, tu veux jouer Roméo et Juliette, mais ne pense qu'à ses amants. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Tu deviens soulard à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excuse-moi vraiment, tu es bête, ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. T'en prie, oh camarade, on dirait que tu n'es pas là. Moi je connais ces rigolades, je suis déjà passé par là. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais qui est-ce, camarade? Je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi, le camarade, le pauvre con, et le voilà.
Nous sommes toujours entre Loire et Loing sur ces deux ailes. Nous sommes toujours à Nibel, mais cette fois, c'est au milieu de la forêt, au cœur d'un parc de 60 hectares, le domaine de Flotin. Ici, on aime la biodiversité, on la cultive sous toutes ses formes, on fait plein d'animations, on est dans les jardins de la voie romaine, ça rouvre le 21 avril, renseignez-vous sur domaineduflotin.com. C'est un lieu vraiment étonnant.
Frédéric, on est dans un endroit magnifique, c'est quoi cet endroit ?
Bon, bah Sandrine, nous sommes de nouveau à Nibel, là où nous avons commencé la journée, mais cette fois-ci au domaine de Flotin. Le domaine de Flotin, c'est un superbe espace naturel, mais également avec de très beaux éléments de patrimoine bâti, et surtout un superbe projet qui est conduit par la communauté de communes Pithivray-Gâtinais et qui va accroître l'offre touristique et culturelle de cette partie du territoire loiretain. Et Joël Pasquet est bien placé pour nous en parler.
Ah bah très bien. Alors on la rejoint, Joël. Elle est là-bas et on est devant un panneau qui nous explique un petit peu tous les circuits qu'on peut faire autour de ce magnifique manoir.
Tout à fait. Donc sur le domaine de Flotin, bonjour, sur le domaine de Flotin, nous avons une diversité de parcours que l'on peut emprunter selon son humeur, sa condition physique, en fonction du temps que l'on a, effectivement. Et l'on peut faire une promenade de 30 minutes, la promenade du charbonnier, où l'on rencontrera bien évidemment la cabane du charbonnier, le chemin de l'imaginaire, qui je ne suis pas sûre qu'il soit encore ouvert, mais surtout le sentier connecté avec son téléphone. On peut donc télécharger une application et suivre ce sentier qui va nous emmener sur tout le parcours et sur tout le domaine de Flotin. Voilà.
Alors Joël, vous êtes la vice-présidente de la communauté de communes chargée de la culture.
Et surtout du tourisme et du patrimoine aussi. Surtout du tourisme et du patrimoine. Et donc, on a eu à cœur de mettre en valeur ce domaine afin que tous les habitants du territoire puissent venir et s'en imprégner. Et pour ce faire, donc, il y a également les jardins de la voie romaine qui se le sont appropriés afin de développer tout un domaine lié à la biodiversité, le jardin des semences, des ruches, et puis également tous les vendredis la tisannerie, puisque ils exploitent ici des tisanes qu'ils vont pouvoir dont ils vont pouvoir faire commerce.
Voilà. Et puis c'est l'ONF qui gère tout ce grand territoire sauvage.
Voilà, la communauté de communes a donc une convention avec l'ONF afin de gérer toute cette forêt magnifique. Et puis il y aura, je pense, des animations liées à cela pour avoir la connaissance des arbres.
Alors c'est un projet très ambitieux et pour l'instant ça n'est que le premier tiers en fait que vous avez réalisé.
Alors il y a, on va dire, il y a déjà une belle partie qui est en route hein, entre les jardins de la voie romaine qui exploitent déjà leur jardin, les balades qui sont déjà mises en route aussi et sur lesquelles tout le monde peut venir tous les vendredis, mais il y a également l'aménagement du manoir que l'on souhaite rénover également, mais qui pour le moment reste à l'état de projet. Et puis nous avons le centre de loisirs sans hébergement que tous les enfants du territoire connaissent également. Ils ont l'habitude de venir ici et de s'y ébattre. Voilà.
Venir passer ses vacances ici quand on est enfant, c'est quand même pas mal. Hein.
Non,
c'est mieux que le bitume d'une cour d'école.
Tout à fait. Oui, non, ils aiment. Les enfants de Puiseau, de Beaune-la-Rolande viennent ici, même ceux du Malzerbois. Hein. L'été, on fait des échanges entre les différents lieux de centres de loisirs. Et comme ça, tous les enfants du territoire sont venus ici jouer et pratiquer les loisirs.
Voilà, puisque vous êtes également élu à Malzerbe.
Au Malzerbois, tout à fait. Et que le domaine de Flotin appartient à la CCPG, on va dire, et concerne tous nos habitants. Tous peuvent venir, voilà.
Bon, alors, pour l'instant, il manque plein de choses. Il y aura peut-être des vélos électriques par la suite, peut-être des tables de pique-nique,
On a des projets, ils ne sont pas encore mis en route parce que les balades viennent de commencer hein, à l'été. Donc, il y a encore des projets à travailler, mais il faut se laisser le temps pour pas faire n'importe quoi, puis habituer les gens petit à petit à venir et voir comment ils peuvent s'approprier le domaine.
Oui, on l'a pas dit. C'est vraiment tout frais. Ça a ouvert en juin.
Oui, tout à fait. On a fait quelques animations. Alors, les jardins de la voie romaine font aussi des animations culturelles. Hein. L'année dernière, c'était un festival du conte. Et cette année encore, il y a eu quelque chose, mais je n'ai plus les dates. Hein. Jeanne nous les rappellera, ou Timothée. Mais voilà, il y a également beaucoup d'animations culturelles sur le domaine qui ont lieu grâce aux jardins de la voie romaine. Voilà.
Bon, merci Joël. Alors Joël nous a donné deux prénoms clés, c'est Jade, c'est Timothée et ce sont eux qui s'occupent de cette association La Voix Romaine. Alors là, il y a plein de choses à dire et on va tout de suite les rencontrer. Alors, l'amour est invaincu. Ça, c'est pas un vœu, ça, c'est une certitude, en fait. En fait, c'est un arbre à certitude, Timothée et Jade, c'est ça?
C'est un arbre à vœux, à certitude, ça dépend. Mais c'est des vœux qui ont été faits, réalisés par les gens qui sont passés ici visiter le jardin des simples du domaine de Flotin.
Alors, Timothée et Jade, ce sont, on va dire, les âmes du jardin de la voie romaine, c'est ça?
En tout cas, c'est nous qui animons et développons ici le domaine de Flotin. Voilà. Donc, on a construit depuis maintenant 2 ans avec tous les salariés du domaine, là, et c'est plus d'une quinzaine de personnes, et ben plein de projets complémentaires sur ce lieu-là, parfois certains très ancrés dans la terre, hein, dans l'agriculture, la culture, et puis des projets qui sont plus évanescents, qui volent, qui virevoltent, comme là, les vœux autour de nous.
Il y a un concept de solidarité dans votre association.
Alors notre association, c'est avant tout un lieu de cohésion sociale et de solidarité. C'est-à-dire que tous les projets qu'on mène, c'est des projets qui sont faits avec des salariés en parcours d'insertion. Donc c'est des personnes qui étaient un peu en panne dans leur parcours professionnel, des personnes qui ont parfois eu des accidents de vie, des difficultés, ou des jeunes qui n'ont jamais travaillé, et que nous on embauche, on leur dit on veut de vous, on veut faire des choses passionnantes avec vous, et on construit tous ensemble tous ces projets sur nos 4 sites de l'association.
Il y a 4 sites, lesquels? Il y a Flotin, il y a Grignon, à Vieille Maison, il y a la Roseraie qu'on va aller voir tout à l'heure, c'est ça?
La Roseraie de Mouraille, Et le dernier, c'est le plus improbable et le premier projet qu'on a fait, à Beaune-la-Rolande, c'est le jardin maraîcher du Beaunois, où on fait du maraîchage bio sur un délaissé autoroutier. Et c'est comme ça qu'est née l'association en 2010. On a travaillé là pendant plusieurs années avant de s'étendre aux autres projets.
Alors, après avoir interviewé la bête, je vais interviewer la belle, qui est là. Jade, est-ce que tu t'occupes du flottin particulièrement ou des autres sites aussi ?
Uniquement de flottin. Je suis en charge de développer le projet à flottin avec tous les autres salariés.
Voilà, alors ici, on est dans le jardin des simples.
Exactement. Donc, flottin était un prieuré au XIIe siècle. Et donc, on a voulu faire écho à l'histoire du site en créant un jardin type médiéval avec à la fois un verger, un petit potager, et surtout les aromatiques et médicinales. Et donc, avec ces plantes médicinales, on fait des tisanes.
Est-ce que ce mur qu'on a derrière nous, il a été construit de toutes pièces ou est-ce qu'il a été restauré ?
Je pense qu'il a été restauré, mais j'ai pas l'info.
Bah, écoutez, parce que si c'est un jardin de simple, en effet, il est refermé sur lui-même. Donc,
C'est ça. On avait toujours un puits central, des murs tout autour du jardin, et puis ces trois éléments-là.
Et alors, Timothée, tu me disais tout à l'heure que ce jardin, on va le visiter. Il y a des animations qui s'y passent. Tu m'as parlé d'une visite nocturne avec des illuminations.
C'est un lieu qui est à la fois un lieu de production et à la fois un lieu de vie. Donc c'est ouvert aujourd'hui tous les vendredis avec la tisanerie qui est là au fond. Donc on peut venir s'installer dans le jardin des simples sur un transat, sur une chaise. Et on peut boire une tisane fraîche ou chaude. Et puis c'est un lieu qui est animé par des activités régulières. Donc il y a beaucoup de transmission dans ce lieu-là. Donc il y a des ateliers avec les enfants ou les adultes pour comprendre les plantes qui soignent et les plantes qui font du bien. Et puis on a des événements un peu plus marquants. Donc là, on fait une illumination nocturne du Jardin des Simples. Donc c'est toute une mise en scène poétique et lumineuse du jardin avec des objets, avec des éclairages particuliers. Et on a des salariés pleins de talents qui nous font des choses qui nous étonnent à chaque fois. Donc ici, c'est la deuxième illumination qu'on fait à Flottin. On en avait fait à la Roseraie de Moraille avant l'année dernière. Et on tire le fil, ce fil lumineux, on continue à le tirer un peu. Il y a toujours plus de monde qui viennent voir ces illuminations. Donc c'est encourageant, quoi. C'est un beau lieu de partage.
Alors je me retourne vers Jade. Combien de salariés ? Il a 10 salariés, le monsieur.
Donc on a une quinzaine de salariés actuellement à Flottin. Et puis on a aussi l'équipe administrative de toute l'association qui travaille avec nous à Flottin.
Mais alors, ces salariés sont des CDD, ils ont pour vocation d'apprendre un métier et de repartir après ailleurs ?
Exactement, oui. C'est des contrats à durée déterminée d'insertion. Nous, on préfère parler de transition parce qu'on se dit que c'est des personnes qui ont juste besoin de passer par Flottin pour transitionner vers autre chose. Et donc, ils sont là pour reprendre un rythme, pour éventuellement reprendre confiance en soi. Et puis aussi, on les accompagne à trouver un emploi derrière ou une formation, si c'est ce qu'ils veulent. Donc, ils sont là de passage, mais on essaye de prendre toutes leurs compétences et leurs envies en considération et puis d'essayer de le faire briller.
Alors, il y a le Jardin des Simples, et puis donc, un petit peu plus loin, c'est de l'autre côté, là-bas, il y a le jardin avec plein de citrouilles, tu m'as dit, il y a plein de citrouilles.
Il y a des belles citrouilles, là, en ce moment. Donc, on a trois activités agricoles sur le site, là. On a la production de tisane et d'aromatiques. On a de l'apiculture biologique, où on a des abeilles, on a 150 ruches tout autour de Flottin, sur des ruchers. Et puis, on a un jardin de production de semences paysannes. Et donc c'est un potager, mais qui est dédié uniquement à la production de semences. Donc on travaille sur des variétés population, donc c'est des variétés libres de droit qu'on reproduit, qu'on diffuse, et ensuite qu'on travaille avec les particuliers, les jardiniers, et puis avec les autres maraîchers aussi. Donc on essaye là de trouver des variétés qui sont intéressantes, et puis on travaille particulièrement les variétés locales. Où il y a plein, dans l'histoire en fait de notre région, il y a plein de variétés locales de légumes qui sont là et qui sont sous-utilisées. Et sous-utilisées parce qu'elles ont un intérêt grandissant, et notamment à cause du changement climatique. C'est-à-dire que c'est des variétés qui ont une capacité d'adaptation que d'autres n'ont pas. Donc c'est aussi un lieu de production de semences, mais c'est aussi un lieu de transmission. On défend à travers ça une certaine agriculture. Donc d'abord une agriculture biologique, c'est ça qu'on défend. Et puis ensuite, une agriculture qui est ancrée aussi dans les terroirs. et la richesse des terroirs et leur diversité, c'est ça qui est important.
Alors, en plus, le savoir semencier, c'est difficile. C'est compliqué à faire la sélection de semences.
Ouais, je confirme, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est un nouveau métier, mais on a une équipe, une très bonne équipe là, avec des compétences qui travaillent dessus là. Et au fait, on se lance, c'est un peu fou comme projet, quoi, parce que faire un chantier d'insertion de production de semences paysannes, ça existe pas dans ce format-là, en tout cas. Donc au fait, on part dans l'inconnu. Et on bricole le quotidien, on a des réussites, on a des échecs et on avance, quoi. Donc c'est ça le principe de l'association, c'est à chaque fois on a été dans des domaines où il y avait un enjeu sociétal, où il y avait quelque chose à aller chercher. Et on pense que l'insertion, c'est un lieu aussi de réflexion, d'innovation et de répondre à des problématiques aujourd'hui. Typiquement les semences, c'est une vraie problématique dans l'agriculture aujourd'hui, une vraie question. Donc nous, en bricolant avec les gens qui allaient mal, en tout cas qui avaient des difficultés, avec des pans de notre société qui ont aussi des questionnements ou des difficultés, on met ensemble toutes les difficultés et il se passe des choses intéressantes et on arrive à voir émerger des choses intéressantes.
Bon, on va se balader un petit peu, voir tout ça. Et puis, de toute façon, on se revoit tout à l'heure à la roseraie, c'est ça?
Ouais.
Et là, on verra aussi, parce que ici, c'est les semences, mais ailleurs, vous développez d'autres choses en maraîchage, on est d'accord? C'est ça?
Alors, on a plein d'activités sur les autres sites. Donc, la base, c'était le maraîchage au jardin maraîcher du Beaunois. Après, il y a eu la roseraie qui a permis d'ouvrir une boutique et un petit salon de thé. Et maintenant, on a Flotin, donc avec les activités qu'on a décrites, et puis Grignon, où on a une brasserie, et puis où on loge des personnes à la nuitée.
Ça mérite de se balader ? Alors on se balade.
Ils ont récupéré des vieux mannequins de couturiers, là. Et ils vont mettre ça, ils vont les illuminer, ça va faire partie du truc. Je sais pas ce qu'ils nous préparent, mais... Donc tu vois, t'as la tisannerie, là, en fait, c'est tout des planches de culture. Là.
Et dis donc, je me disais, dans tes plantes pour les semences, tu fais en sorte de les assoiffer un peu pour réussir à récupérer les pieds qui résistent le mieux et tout ça.
Ouais, c'est ça, hein, partie du truc. Ouais,
Bah ouais, c'est ça.
Il y a ça. Après, ça dépend vraiment des légumes. Ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Parce que tu sélectionnes en fonction des qualités que tu veux. Donc, ça peut être la résistance à la sécheresse, mais ça peut être aussi.
La résistance à l'oïdium aussi.
Voilà, aux maladies. Ça peut être aussi la conservation des légumes une fois que c'est.
Nous étions entre Loire et Loin. Merci de nous avoir écoutés sur ces deux ailes. Nous sommes aussi sur Facebook, sur YouTube, entre Loire et Loin. Cherchez-nous. Vous nous trouverez. Vous trouverez nos reportages en vidéo. Je vous donne rendez-vous ce soir, d'ailleurs, pour commencer au Label Trempe. C'est à partir de 20h30 au Hangar à Chalet. Je vous rappelle que c'est un tremplin musical. Il y a 4 groupes en sélection ce soir. C'est gratuit. Et samedi prochain, à 10h, sur ces deux ailes, pour de nouvelles aventures. Bonne semaine à toutes. Et à tous.
Let's go.